Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
C'est un livre de foi et d'espérance dont nous allons parler aujourd'hui. Un ouvrage qui nous touche particulièrement car il concerne Brice, un enfant de 7 ans frappé par la maladie et son entourage familial et amical qui a fait corps avec lui pour l'accompagner dans son cheminement vers la mort. Si j'ai choisi ce livre qui ne fait pas partie de mes choix littéraires habituels, c'est parce qu'il est porteur de vie, éclairé par ce petit bonhomme singulier qui, au plus fort de la maladie, a su dire à ses parents « Rassure mes copains ». C'est le titre de cet ouvrage écrit par Bénédicte Horioux, maman de Brice, ouvrage édité par les éditions jésuites Fidélité, et notre rencontre se fait en duplex avec Radio Fidélité à Nantes. Bénédicte Horioux, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci aussi.
Voilà, alors vous commencez votre livre par « Nous avons un fils, il s'appelle Brice ». Et d'emblée, on se dit, voilà, votre fils est là, est toujours présent parmi vous.
Oui, effectivement, il ne me quitte pas. Et voilà, il avait des choses à dire, il nous a transformés. Et maintenant, en étant sa maman, c'est être capable de pouvoir lui permettre de donner la parole qu'il n'a pas eu le temps de donner pendant sa vie.
Et aussi, vous avez écrit le livre qu'il avait l'intention de lire.
En fait, c'est pas tout à fait. Il souhaitait écrire un livre, c'est venu au cours de sa maladie. Un jour, quand il perdait toutes ses capacités, après avoir perdu la marche, après avoir perdu la capacité d'utiliser ses mains pour faire des Legos, il a eu le désir, parce qu'il lisait Les Découvreurs de Dieu, ces BD-là qui racontent l'histoire des saints, il avait le désir de pouvoir lui aussi écrire un livre qui ressemblerait à ça, et il me dit, Brice et Jésus. Mais ça a été l'occasion rapidement de voir aussi que c'était pas mon livre. Ce livre-là s'appelle pas Brice et Jésus, il s'appelle Rassure mes copains, parce que c'est lui qui écrit son histoire maintenant, avec dans la manière avec laquelle il touche le cœur des uns et des autres.
Oui. Donc voilà. Et il vous a laissé justement il a sans doute conforté cet amour de la vie et votre postface, et on va commencer par cela, c'est un hymne à la vie. J'aimerais que vous nous lisiez cet extrait, Bénédicte.
Très bien. Hommage à Brice, hymne à la vie. Il me faut beaucoup d'humilité pour cerner avec vérité une sensation très fine et surprenante pour moi, c'est le bonheur d'être vivante. Elle me surprend et peut me paraître absurde à moi qui ai perdu mon fils. Est-il possible d'être heureuse, de vivre avec tant de souffrances, d'injustices, de blessures? Éprouver ce bonheur, je le dois à Brice, au choix que nous avons fait au cours de sa maladie, de vivre tout ce qu'il était encore possible de vivre avec lui. Ce choix, je le fais aujourd'hui en faisant un travail sur moi pour devenir pleinement moi. Je ne peux pas me résoudre à segmenter ma vie, à écarter de moi tout ce qui pourrait me rappeler notre souffrance pour passer à autre chose, en laissant béant en moi un mal qui me ravage. Je ne peux pas non plus m'enfermer dans ma tour d'ivoire, dans un autre monde imaginaire, qui serait un cercle de quelques amis qui me comprennent, quelques lieux de vie rassurants qui me diraient qu'un jour on se retrouvera. Non, ce qui s'ouvre à moi, c'est consentir à aimer la vie, à chérir la vie sans la segmenter et telle qu'elle est. Le bonheur d'être vivante, je le goûte en éduquant, en déployant mes potentialités d'éveil à la vie auprès de mes petits élèves, auprès de mes enfants, dans notre famille. Accompagner Brice dans sa maladie a révélé en moi des ressources de bienveillance. Je vis pleinement avec lui en vivant aujourd'hui à partir de ce meilleur de moi et en travaillant pour unifier ma vie. Alors, j'ose consentir à chérir la vie, à me redresser et prendre ma place. C'est choisir cette bienveillance qui dépasse la raison, qui fait grandir et qui peut se déployer dans mon quotidien. C'est aimer parce que quelque chose de fantastique traverse l'univers. Parce que même lorsque la mort frappe et prend ce que l'on a de plus cher, cette bienveillance demeure et s'offre à moi, à chacun. C'est un élan intérieur, intime, plus grand que moi, mais bien de moi. Elle se dit dans la naissance d'un tout petit, dans une crèche. mais chacun reste libre et peut ne pas l'avoir. Cette bienveillance nous transforme. Je témoigne qu'Yves et les filles changent aussi. Ce n'est pas l'immobilisme qui caractérise notre famille, mais l'amour de la vie. Brice continue à changer la nôtre. L'avenir est ouvert.
Merci Bénédicte Auriou, merci pour cet extrait que vous venez de lire. Pouvez-vous, pour nos auditeurs, raconter ce qui s'est passé?
Alors, nous étions une famille tout à fait ordinaire, pas plus préparée qu'une autre famille à vivre ce que nous allions vivre. Nous avons donc, je suis mariée, nous avons 4 enfants. Brice est notre petit dernier qui est né en 2004. Et nous déroulions une vie, on va dire, tout à fait ordinaire, dans lequel on choisissait de vivre des moments simples. On aimait bien faire de la randonnée, on aimait bien faire du vélo. Rien ne nous préparait plus que quelqu'un d'autre à vivre ce qui allait arriver. Et du jour au lendemain, Brice ne marche plus droit. Il se cogne contre les murs en allant aux toilettes. Nous allons donc consulter le médecin et nous nous retrouvons aux urgences. En très peu de temps, le diagnostic tombe. C'est une tumeur située au niveau du tronc cérébral, donc c'est le lieu de jonction entre la tête et puis le reste du corps. C'est un lieu où n'importe quelle grosseur a une influence énorme puisque ce sont là que passent tous les influx nerveux. Et donc le verdict tombe, non seulement il y a une tumeur à ce niveau-là, mais en plus elle est hautement... elle est d'un haut grade, c'est un vrai tsunami dans notre famille et tout bascule ce jour-là. Donc voilà, Brice avait 6 ans et demi, et voilà, les filles étaient un petit peu plus grandes. Et notre vie changeait. On nous annonçait une espérance de vie de quelques mois.
Voilà, donc une aggravation très rapide. Alors vous parlez évidemment des examens, des attentes sans fin, de transfert à Angers, à Nantes. Et vous parlez évidemment de ce que vit une mère, l'angoisse partagée aussi avec l'espérance toujours.
Oui, alors c'est d'abord l'angoisse qui m'envahit. En fait, oui. Je passe mes journées entières à l'hôpital avec Brice, dans l'attente de ce que va nous dire les médecins. On est vraiment à les attendre. Et en même temps, c'est un moment où je suis confrontée à moi-même, où je suis confrontée aussi à Brice et puis son envie, dès ce moment-là, d'encore vivre et d'encore faire plein de choses et de jouer. Et on m'annonce des choses terribles. Et quand je le retrouve, en fait, c'est cette douceur d'être avec lui et qui m'envahit peu à peu avec le désir, en fait, de vouloir vivre avec lui tout ce qui est encore possible de vivre. On choisit pas cette histoire-là, mais ce qu'on choisit, en fait, c'est de le vivre en vivant le mieux possible l'instant présent.
Pleinement, oui.
Et pleinement.
Comment était Brice ?
Alors Brice était un petit garçon très espiègle et très coquin. Ce qu'il aimait particulièrement, c'était faire enrager ses sœurs, c'était rire avec ses copains et c'était plaisanter. Très rapidement, les copains, hein, l'école, c'était bien d'apprendre, mais c'était bien aussi de pouvoir faire le pitre et puis de pouvoir attirer l'attention sur lui et de rire. Ça, c'était un petit garçon très espiègle.
Des réflexions très pertinentes d'après ce que j'ai compris. Et ce que je comprends aussi, c'est que t'es un enfant entouré, choyé, le papa qui lui raconte des histoires, les 3 grandes sœurs qui sont là, même si il les embête, elles sont là présentes. Ses relations avec ses sœurs étaient différentes
avant et après la maladie ?
Oui.
Oui, alors elles ont effectivement changé énormément parce que du jour au lendemain, Brice qui tombe malade, en fait, n'a plus le même sens de l'équilibre et se tourne vers d'autres jeux, notamment vers des jeux de DS alors qu'on n'y avait pas accès avant. Mais quand on est un enfant à l'hôpital et qu'on reste de longues heures à attendre, eh bien, c'est bien pertinent de se poser ce genre de questions. Et sa sœur qui est juste au-dessus d'elle, de 18 mois au-dessus, ne comprend pas bien pourquoi est-ce qu'il ne vit pas toute la journée, il continue plus à jouer de la même manière avec elle. Et puis ses autres sœurs comprennent aussi la difficulté du moment, que tout tourne. Il y a sa grande sœur Myriam qui est au collège, qui nous demande des fois de rester à la maison pour pouvoir jouer avec lui. Il y a un changement et puis il y a aussi beaucoup d'interrogations parce que, comme vous pouvez l'imaginer, on ne peut pas passer notre journée à dire à Brice « ta vie est compromise, dans peu de temps tu risques de mourir » et on ne peut pas le dire non plus toute la journée devant lui, à ses sœurs. Donc en fait, nous faisons ce choix en fait de ne pas devancer ses appels. Nous lui disons toujours toute la vérité de ce qu'il nous demande.
Au fur et à mesure.
Mais oui. Nous ne le devançons pas. Voilà. Tout comme ses sœurs, nous ne les devançons pas, ce qui conduit des fois à des questionnements et des fois on s'est retrouvés sans bris, sans famille, et une fois avec une psychologue pour pouvoir en parler ensemble parce que voilà, il y avait cet ajustement de comprendre comment est-ce que on peut en parler à certaines personnes extérieures et puis des fois un peu moins en intérieur parce que il faut préserver cette vie et puis aller au rythme de Brice aussi.
Oui, ce que j'ai vraiment admiré, c'est cette volonté aussi, justement, et ce questionnement, comment laisser leur place à vos trois filles qui étaient là malgré tout, justement. Vous dites aussi, bon, on comprend le chamboulement qui s'est opéré dans la famille, que vous parlez par exemple des principes éducatifs qu'il faut abandonner, les jeux électroniques, évidemment, et les projets aussi.
Oui, oui. Alors, il y a beaucoup de projets qui vont être mis en place parce que du coup, on se met à l'écoute de ce qu'on Brice a envie de vivre, mais vivre avec nous et avec notre famille. C'est vrai que quand l'espérance de vie est de quelques mois, on n'a pas envie de se séparer de son enfant. On le fait parce que quand il nous demande, pour lui, c'est important d'aller à l'école. Il va aller à l'école quasiment jusqu'au bout. Mais l'école, c'est pas avec maman, donc il faut trouver les moyens pour qu'il aille à l'école sans maman. Par contre, les week-ends et les activités, on essaye de faire ça ensemble. Et puis, c'est la porte ouverte, du coup, à des aides et des sollicitudes extérieures, des gens qui se font proches, qui nous proposent des choses, même des associations. On part à Disneyland Paris, ce qui réjouit les grandes sœurs. Enfin, la maladie de Brice apporte quelque chose de bien. C'était un petit peu ça, d'une certaine manière.
Oui,
mais voilà, vivre tout ce qui est possible.
Oui, ce que vous soulignez, c'est l'importance de l'entourage, de la famille et des amis.
Oui, très très important. En fait, moi, à l'hôpital, je suis complètement centrée, tournée sur Brice et tout tourne dans ma tête et comment survivre à une telle annonce et comment vivre les jours qui viennent et comment quel chemin on va faire avec ça. Tandis que Yves, mon mari, lui, est beaucoup plus en lien avec le monde et la réalité. Il rentre à la maison le soir, il est en lien avec les filles. Et puis, très rapidement, il a ce goût de porter l'information autour et de la transmettre. Ce qui fait que très rapidement, on est entouré par beaucoup de monde, beaucoup de gens qui nous expriment leur sollicitude. C'est vrai que souvent, on peut, dans des épreuves comme ça, se dire on est seul. En fait, moi, je me trouve plutôt entourée de personnes qui, pleines de bonne volonté, proposent toutes les unes après les autres un service. On va aller promener le chien, on va aller voir avec Brice les poules. Enfin, toutes les idées germent et être un enfant malade et être se laisser entourer par cet entourage, c'est permettre aussi à l'entourage de pouvoir exister dans sa bienveillance et d'inventer avec nous des choses pour lui adoucir la vie.
Vous dites aussi que dans cette présence que vous avez, dans votre présence auprès de Brice, vous saviez que Dieu était là à vos côtés. Vous parlez d'une sorte de révélation, votre amour pour Jésus.
En fait, ma foi, dans toute ma vie, je ne l'ai pas toujours expérimentée et sentie si proche de moi. Mais pendant cette épreuve, surtout pendant ces temps d'annonce de la maladie de Brice, où il est à l'hôpital, où on doit attendre pour la ponction, où on doit attendre la suite, qu'est-ce qui va être donné. C'est aussi la possibilité de m'ouvrir, alors on s'est ouvert à l'entourage, mais de s'ouvrir aussi à ma foi et de me dire cette proximité au Christ, si elle est vraiment présente, si le Christ est là, eh bien on doit pouvoir le vivre d'une autre manière, cette épreuve-là, et on doit la vivre avec lui et il doit pouvoir la remplir de notre présence. Et c'est un moment, c'est ouvrir sa porte à ce que lui aussi puisse exister et être présent et lui laisser la place dans cette période-là très particulière. Et c'est lui aussi l'espérance pour notre vie, parce que si ses paroles sont vraies, si ce qu'il nous dit est vrai, la mort ne doit pas être dramatique. La mort doit être un passage.
Oui, et vous dites si la vie de Brice n'est pas... Pardon, je vous interromps, excusez-moi. Vous dites la vie de Brice n'est pas un échec. Il y a l'idée de la mort, mais la vie de Brice n'est pas un échec.
Non, j'étais très marquée par des familles qui, on a rencontré d'autres familles endeuillées après la mort de Brice. J'étais très marquée de voir que beaucoup de familles ont eu le désir d'avoir un autre enfant derrière, comme si c'était quelque chose Voilà,
pour compenser, fallait...
Je ne sais pas si c'est compenser, mais c'est au moins être capable encore de donner la vie. Ou voilà. Et c'est tout à fait aussi juste, tout comme accueillir un nouvel enfant n'enlève pas de l'amour aux enfants précédents. De la même manière, accueillir un autre enfant après la mort d'un enfant décédé, c'est pas l'enlever à celui ou le prendre à celui qui est parti, mais non, c'est pas un échec, c'est vraiment laisser la place à Brice pour nous transformer. Et aujourd'hui, je ne sais pas sans Brice ce que nous serions aujourd'hui non plus. Je pense que
vous seriez
il a réveillé en nous des potentialités qui nous a mis en route. Peut-être que notre famille serait plus en échec, peut-être que notre famille serait, je ne sais pas. En tout cas, il a réveillé en nous le désir de baser notre vie sur des choses essentielles et des potentialités essentielles qui nous permettent en fait à ce moment-là de tenir, mais de s'exprimer nouvellement et autrement aujourd'hui.
Oui. Par exemple, vous aviez un souhait que Brice fasse sa communion avec Céline, qui avait un an de plus, si je ne me trompe pas. Et vous disiez que pour créer un lien d'éternité, c'est très fort, cela. Pouvez-vous nous en parler ?
Oui, je me suis vraiment posé la question, Brice, quand il va avoir fait son passage, quand il sera dans le Christ, comment vais-je le reconnaître et comment est-ce qu'on va pouvoir cheminer avec lui ? Sur quel Christère de ce petit garçon-là je vais le reconnaître ? Et il y avait ce désir-là, effectivement, de cette recherche de qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre et tout. Et ce qui m'a apaisé, ce qui m'a fait le souhait de vivre tout ce qui était possible de vivre avec lui, ça a été aussi... d'ouvrir la porte à cette première communion et qu'ensemble, tous les six, nous communions ensemble au Christ de manière à ce qu'une fois qu'il soit décédé, nous puissions encore communier non seulement au Christ, mais que le Christ nous redonne le corps de... Par son corps, le Christ nous donne aussi le corps de Brice. Comme si le Christ serait le corps rayonnant de mon fils, tout comme le corps rayonnant de tous ceux qui ont fait leur passage, mais avec une autre densité et une autre forme d'expression que notre expression corporelle actuelle.
En même temps, vous vous efforcez tous de vivre normalement et pas en sursis. Je reprends votre expression que j'ai lue dans votre livre. Continuez à vivre, lui en allant à l'école, vous à faire des projets, à agir. Il avait un tel appétit de vivre également.
Tout à fait, il avait l'appétit de vivre, il voulait faire plein de choses, il était très heureux quand il pouvait retrouver des sensations de quand il ne pouvait plus marcher, de quand il marchait, enfin voilà. Et puis, on ne pouvait pas, et ce n'était pas honnête vis-à-vis de Brice, de paralyser notre vie ou de la laisser en sursis le temps où il était cela, parce que nous, c'était peut-être un petit bout de notre vie, mais pour Brice, c'était toute sa vie. Et on devait vivre avec lui pendant toute cette vie, de manière à continuer à vivre avec lui après.
Et le vivre
donc, c'est
à fond,
cet entraînement de vivre avec lui. On s'est mis en route avec lui, et quand au fur et à mesure qu'il perdait ses capacités, on continuait à inventer. Et quand Brice a fait son passage et est décédé, on a continué à inventer comment ce lien-là aussi avec lui et comment est-ce que on a, nous, à devenir en tant que personne. Il nous apprend en fait énormément à ce que c'est que le bonheur. Que le bonheur, c'est en fait réussir à exprimer qui on est, nous, le plus pleinement possible. Et dans exprimer le plus pleinement ce qu'on vit, il y a aimer, entre autres. Et c'est vrai que... Voilà.
Oui, vivre aussi le moment présent, le vivre à fond, intensément. Vous l'avez fait avec lui, avec votre famille, avec vos amis ?
Oui, c'est vrai qu'on ne sait jamais, à partir du moment où on a un enfant malade, comment va se dérouler la journée. Le nombre de fois qu'on s'est retrouvé à l'hôpital alors que ce n'était pas prévu. Et inversement, des fois on pensait passer toute la journée à l'hôpital et finalement on nous dit vous pouvez rentrer chez vous dans l'heure qui suit, nous ont mis devant le fait que il y avait à inventer en permanence, alors projeter des projets, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui serait bien, et en même temps dès qu'il y avait une nouveauté, une réalité qui apparaissait, c'était aussi la prendre en compte et de nouveau chercher ce qui était le plus juste et le meilleur, et pour notre petit garçon et pour nous.
En fait, bon, bien à un moment, vous parlez d'espoir, toujours, malgré tout, que les médecins se trompent. Et en fait, tout a été tenté, je le dis pour les auditeurs, parce que effectivement, tous les moyens ont été mis en place de soins, de traitements, d'aménagement même de temps scolaire. Enfin, tout a été fait autour de ce petit garçon. Et j'admire justement ce lien que vous avez créé avec non seulement l'hôpital, le personnel de l'hôpital, mais ceux de l'école, toute cette chaleur qui a fait que tout le monde s'est mobilisé autour de Brice.
Oui, mais c'était un petit garçon attachant, Brice. Alors évidemment oui. Que les uns et les autres essayaient de le rendre heureux et puis de rentrer dans sa complicité.
Il avait des remarques très drôles, j'ai l'impression.
Tout à fait, des drôles et puis des très pertinentes aussi. Très rapidement, quand il a été malade, on lui disait il y a un tel qui prie pour toi, ou voilà, et lui, très pertinent, dans ce duo de ses 6 ans et demi, il dit peut-être qu'il prie pour moi, mais moi, ma boule, je l'ai toujours dans ma tête. Voilà, très réaliste.
Oui,
donc,
oui.
Et voilà, c'est pas un coup de baguette magique.
Alors, vous avez eu aussi cette énergie extraordinaire, justement, de porter vos projets. Il y a eu un voyage dans les Pyrénées, c'est quand même pas la porte à côté pour des Nantais. C'est également une retraite dans l'est de la France, dans une communauté, je crois, enfin, je ne sais pas si vous la nommez, cette communauté, d'ailleurs.
Non, je ne la nomme pas, mais c'est une communauté amie qui est dans l'est de la France, qui s'appelle La Roche d'Or.
La Roche d'Or, voilà, oui, que je connais. Oui, et d'ailleurs, c'est là où Brice et Céline ont fait leur communion.
Tout à fait, ça a été très rapidement un choix. En fait, c'est lié à une histoire tout à fait particulière avec cette communauté. En fait, mon histoire veut que j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans. Et dans les 6 mois qui ont suivi, en fait, j'ai connu cette communauté de la Roche d'Or en tant qu'enfant. Ça m'a profondément marquée. J'y suis revenue dans les années 90, où une personne de la communauté venait de décéder et j'ai pu découvrir avec eux ce que c'était que vivre un passage et le vivre dans l'espérance chrétienne, que oui, Adèle qui venait de faire son passage, on pouvait être reconnaissant pour tout ce qu'elle avait vécu de sa vie et qui prenait sa pleine stature dans ce passage dans le Christ. Et c'était ça qui était proposé et offert par rapport à la Roche d'Or, c'était de se dire, eux ils sont là-bas à 700 km, et bien cette foi, si elle existe réellement, on peut l'inventer et la vivre nous ici où on est, dans cette expérience tout à fait à la fois dramatique et puis qui nous est donnée comme ça, de l'accompagnement de notre petit garçon jusqu'à l'extrémité de sa vie terrestre, et comment l'accompagner, comment lui permettre ce passage et comment surtout tout dédramatiser parce que tout va être donné et il n'a pas à s'inquiéter de ce qui va advenir, mais c'est toute une épreuve pour une maman parce que moi je ne suis jamais passée par la mort et je ne sais pas ce que c'est que la mort. Alors être rassurante pour cette étape là c'est aussi tout un acte de foi et un pari.
Nous reparlerons un petit peu de votre retraite à la Roche d'Or, mais pour l'instant je vous propose une pause musicale et nous reprenons tout de suite après.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yes.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Oui, vous aurez reconnu What a Wonderful World de Louis Armstrong. Quel monde merveilleux, avec Brice. Alors, Bénédicte Horiou, vous étiez à la Roche d'Or et le thème de cette retraite était incroyablement opportun. Ne désespérez pas, je combats avec vous.
Oui, tout à fait. C'était le moment qui était comme ça. C'est vrai que j'avais très envie qu'on y aille donc pour faire que Brice puisse faire sa première communion avec Céline au 15 août. C'est révélé que c'était aussi pendant une retraite de où on parlait de l'apocalypse. Et c'est vrai qu'elle s'adressait particulièrement à nous. Ne désespérez pas. Et ça reste vivant pour nous encore aujourd'hui, effectivement.
Oui, j'ai noté des phrase dans votre ouvrage, le temps n'existe que pour l'être humain.
Oui, tout à fait. La densité, on voit bien qu'on vit densément à un moment, que le temps prend de la densité. Il n'a plus la même valeur que des fois le temps qui passe longuement à d'autres moments. C'est vrai que c'est une notion finalement très, très humaine.
Très humaine, le temps. Oui. Alors, et pour Brice, aussi, il y a eu une sorte de révélation lors de cette retraite, car il a vu un film, et un film qui l'a bouleversé pour un petit garçon de cet âge-là, c'est assez étonnant aussi.
Mais Brice était, et c'est normal, lui savait très bien qu'il se dirigeait vers, sa vie était compromise, et je l'ai pas raconté dans le livre, mais il avait déjà été très chagriné parce que dans la communauté de l'Arche où travaille mon mari, il y avait un petit lapin qui était mort un peu de temps avant, alors c'était, je crois que c'était Esperanza, c'était dramatique qu'Esperanza soit mort, et là, se trouver à regarder un film qui raconte l'histoire de cette communauté et de voir que le fondateur Florin est mort, mais qu'il l'a pas connu et qu'il était trop gentil. Pour Brice, c'était trop dur, inconsolable, disant, moi, j'aurais aimé construire la Roche d'Or, aider Florin à construire la Roche d'Or. Il a fallu la rencontre d'une personne de la communauté pour lui parler et
le lendemain.
Et puis surtout, lui parler aussi de la mort, lui parler que, elle l'a vraiment questionné sur si lui, il avait peur de la mort et pourquoi il en avait peur. Et quelques mois après le décès de Brice, ce qu'elle nous a rapporté, cette personne, c'est combien en fait pour Brice, c'était pour son papa et sa maman qu'il était inquiet. Et que c'est pour ça que ça l'embêtait de mourir. Et c'est une notion que sur le coup, je me suis dit, mais c'est extra... Enfin, Brice, avoir cette notion-là, c'est quand même impressionnant.
Oui.
J'ai pu me rendre compte que d'autres enfants confrontés à la même maladie que Brice ont cette même préoccupation. Et que c'est une préoccupation aussi des enfants de cet âge-là, des enfants de 7 ans. La petite fille qui a perdu sa copine, justement de la même maladie de Brice, disait « Noémie, elle, ça va bien, mais il faudrait que j'aille voir sa maman parce que c'est elle qui a besoin d'être rassurée. » Donc je me disais qu'elle avait une connaissance intuitive de l'intérieur, voilà, d'un enfant de 7 ans, quelque part. Un enfant de 7 ans, il est déjà ouvert à l'éternité, il a une part de spirituel en lui. Et elle s'exprimait là, en tout cas, pour Brice.
Et de même qu'il dit « rassure les copains ».
Voilà. Alors, rassurer mes copains, c'est venu très rapidement quand lui était encore à l'hôpital, que l'école allait recommencer parce que Brice est tombé malade pendant les vacances de février. Et donc, le jour où il fallait recommencer à retourner à l'école, eh bien, il ne pouvait pas aller voir ses copains. Et c'est devenu rapidement. Mais maman, il faut téléphoner parce qu'il faut rassurer mes copains. Alors, on mesurait ni lui ni nous l'impact de cette phrase-là, ni l'impact réel de la maladie de Brice, mais finalement on se l'est approprié petit à petit et ça a vraiment été notre préoccupation de rendre les choses les plus douces possibles au fur et à mesure où Brice perdait ses moyens et aussi au fur et à mesure que la mort approchait. Et quand Brice a fait son passage, c'est vrai qu'on était plus préoccupés par cette phrase de comment être une présence auprès de tous ceux qui étaient tristes de sa perte, parce qu'on se sentait quelque part comme loin devant, parce que pour nous, le tsunami, ça a été le jour où Brice est tombé malade.
Oui. Et Brice, à un moment donné, alors d'une part, on a l'impression aussi qu'il mûrit intensément. Et dans le fond, il vous montre aussi le chemin. Et quand il va mieux, il vit intensément.
Il vit intensément et il nous donne les pistes de comment il va vivre les événements quand il va moins bien. C'est-à-dire que pendant la phase de sa maladie, donc il y a eu la déclaration de la maladie qui s'est manifestée très brutalement, où il a perdu des capacités. Et ensuite, il y a eu toute une période de rayon qui a été bénéfique pour lui. Donc pendant 4 mois, 5 mois, il a tiré les avantages de ces rayons. Il a pu retrouver la marche, il a pu retrouver des activités qu'il ne faisait pas avant. Et puis, évidemment, ensuite, quand la maladie est réapparue, du coup, il perdait définitivement certaines capacités, que ce soit la marche, que ce soit la main. Et à chaque fois, en fait, il nous apprenait comment faire pour passer à l'étape d'après. Moi, en tant que maman, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire quand Brice ne pourra plus marcher? Parce que lui qui aime tant courir, qui aime tant faire le pitre, comment ça ne va pas être possible? Et en fait, le moyen qu'il trouvait, c'était de vivre intensément la capacité qu'il devait sûrement sentir, qu'il perdrait bientôt. Il nous convie comme ça à aller dans un parc où il y a des structures gonflables au mois de septembre, le 14 septembre. Donc on va avec lui et 10 jours après, il avait pourtant très mal au dos à ce moment-là. Ce jour-là, il saute sur les structures comme s'il n'avait pas mal. Je pense qu'il avait mal, mais il savait que bientôt il ne pourrait plus en faire. Et 10 jours après, il était en fauteuil roulant. Ensuite, ça a été toute une période de frénésie de l'ego, très grande envie de construire, jusqu'à ce que sa main gauche ne puisse plus fonctionner. Du coup, ça ne l'intéressait plus l'ego. L'ego, il passait à une activité autre qui pouvait être, du coup, plus l'ordinateur ou la déesse. Et puis, c'est dans ce contexte-là que quand il n'a pu faire toutes ces choses-là, il a eu envie d'écrire ce livre qu'il aurait appelé « Brice et Jésus ». Donc voilà, on s'est laissé conduire par ses intuitions et ses envies et essayer de les réaliser les mieux qu'on pouvait.
Et Brice, évidemment, se pose des questions existentielles et il veut que vous priez avec lui tous les soirs. Et ça aussi, c'est quelque chose de peut-être de nouveau pour lui, non ?
Oui, alors au moment de sa première communion, ça a été ça, le tournant pour lui, ça a été de se dire, maintenant, voilà, Florence était devenue son amie du ciel, et à partir de ce moment-là, de dire, eh ben maman, tous les soirs, on dira notre Père. Alors je me suis dit, moi, en tant que sa maman, comme toute maman, il avait envie de faire ça, et mon devoir de maman était de l'aider à éventuellement y penser si jamais lui n'y pensait pas ou l'oubliait, et c'est vraiment venu quelque chose d'institué. Jusqu'à ce qu'il tombe 2 ou 3 jours après dans le coma, puisque en fait, certains soirs, la fin de sa vie, il avait du mal en fait à rester conscient très longtemps. On avait l'impression qu'il passait de longues heures à dormir. Ce qui était très surprenant, c'est que c'était pour se réveiller au moment essentiel. Alors, il se réveillait au moment de quand on était à l'église pour aller communier. Ça, à chaque fois, on lui disait « Brice, ça va être le moment de la communion » et bizarrement, il ouvrait ses yeux à ce moment-là. Et puis pareil pour le Notre Père, j'étais surprise même, ça devait être la veille qu'il tombe du coma, je lui dis écoute, t'as l'air de dormir Brice, t'es très fatigué aujourd'hui, je vais te dire Notre Père pour toi comme tu voulais le dire tout le temps. Et en fait, il ne dormait pas, il me disait les fins de phrases, puisqu'en fait il n'arrivait pas plus trop à bien parler, il avait du mal à articuler, mais j'entendais bien les dernières syllabes de chaque phrase et il le disait avec nous. Donc oui, c'est redevenu, oui, il y a eu un tournant effectivement. On pourrait dire que ce moment du 15 août de sa première communion, c'était un petit peu sa naissance dans autre chose, où il découvrait une autre réalité importante. Et puis c'est à partir de là qu'il a eu aussi envie d'emmener ses amis à Lourdes. Encore une aventure, voilà.
On va en parler. Mais alors, avant cela, moi je dois dire que je suis admirative de votre énergie, à vous comme celle de votre mari. Et ce que dit Myriam, votre fille aînée, j'ai trouvé ça très beau. Et si vous permettez, je vais en lire un passage.
Ça a été écrit un an après le décès de Brice. C'était pour les un an de passage de Brice que vous allez lire.
Voilà. Alors, elle s'adresse à Brice. Tu sais quoi ? Je t'admire. T'as toujours eu le sourire, même quand tu as perdu l'usage de tes bras, de tes mains, de la parole. T'as toujours continué à faire le guignol quand la maladie faisait rage en toi. Tu as su rester toi-même quand la maladie essayait de te changer. Tu étais fan de Spider-Man, mais pour moi c'est plutôt toi le super-héros. Il y a deux autres personnes que j'admire énormément, mais à qui je ne leur dirai probablement jamais, c'est papa et maman. Même face à ta maladie, Brice, ils ont toujours gardé espoir quand il n'y en avait plus. Ils se sont toujours montrés forts. Ce sont des battants. C'est grâce à eux que j'ai compris que la vie continuait malgré tout et que d'une certaine façon, tu serais toujours avec nous en nous. On a vraiment des super parents, tu sais. Car oui, même si c'est dur, même si le manque sera toujours là, même si ta maladie n'est souhaitable à personne, je suis fière d'avoir été ta grande sœur. Je suis fière d'avoir eu la chance de te connaître et d'avoir fait partie de ta petite vie. Tu nous as tellement apporté, tu nous as tellement surpris par ta force durant ta maladie, par tout le courage et l'amour que tu nous as offert. Tu as su tous nous faire grandir. Je crois même que tu nous as tous fait changer. Ta vie fut courte, certes, mais elle fut une chance. Merci d'avoir été ce que tu as été. Merci de m'avoir fait grandir. Merci de m'avoir appris à relativiser. Merci d'avoir été mon petit frère. C'est très beau ce qu'elle a écrit.
Tout à fait. Ouais. Je suis très, très fière, oui, voilà, de ce transmission, voilà, aussi de ce que la vie, en fait, elle passe et continue. J'ai compris que la vie continuait malgré tout. Et c'est vrai que c'est... En tant que maman, je suis très touchée qu'elle ait fait cette expérience-là. Et puis que finalement, elle nous la partage aussi. Parce que c'est vrai que c'était... Elle l'avait posté sur sa page Facebook. Et puis finalement, elle nous l'a envoyé pour qu'on en ait connaissance. Et nos filles continuent à devenir des belles jeunes filles.
De belles personnes.
accompagnées de cette histoire. Voilà. Ouais. L'année prochaine, Myriam envisage de partir en Inde, faire un service civique. Donc voilà, je trouve ça très chouette.
Alors, on parlait de votre énergie, de votre courage, parce que vous avez parlé de Disneyland. Bon, effectivement, c'est toute une expédition quand on est nombreux déjà, et avec un enfant qui est malade. Vous êtes allé en Corse. Et vous avez dit, on a découvert en nous des capacités de vie insoupçonnées.
Tout à fait. Je crois que c'est le propre des épreuves, lorsqu'on trouve à toucher en nous nos potentialités profondes. Elles ne sont pas spécifiques à nous, elles sont pour moi présentes en chaque personne. Le tout, c'est de savoir comment y accéder. Une personne disait, on dort sur un foisonnement de potentialités qu'on ignore souvent. Et c'est vrai qu'elles se sont manifestées, elles se sont exprimées au cours de la maladie de Brice. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le désir d'en prendre soin.
Vous avez fait également un voyage avec lui donc à Lourdes, vous nous en avez dit un mot tout à l'heure. C'était pour un espoir de guérison ou pour préparer un passage ?
Non, c'était pas du tout dans l'espoir de guérison. Ça a vraiment été un souhait de Brice, en fait. On y avait été en 2009 avec une communauté de l'Arche qui est à côté de chez nous, dans lequel travaille Yves. Et donc, Brice avait gardé un très bon souvenir qu'on avait été là-bas, et avec les copains et tout, ils s'étaient amusés et tout. Et ils souhaitaient qu'on mette ça en place, mais on était partis à un ou deux quarts, je sais plus, on était une centaine de personnes, ce qui n'était pas envisageable de refaire de la même manière. Mais du coup, on a écouté sa demande et on a proposé qu'un groupe d'enfants puisse y aller avec. Donc, on est parti cinq adultes et huit enfants, je crois, pour 3 jours, tout début décembre. Donc, en fait, c'était 3 semaines avant son décès. C'était un pari pour se mettre à l'écoute de son désir et voilà. Mais il n'y avait pas d'attente de guérison parce que... Je suis sûre que Dieu est présent avec nous et qu'il est le premier à pleurer et à souffrir des souffrances qu'on peut subir et qu'il n'est pas celui qui les donne, mais il est celui qui peut remplir de sa présence ces moments compliqués. En fait, c'était un désir d'être plus proche de lui, parce qu'on sait combien lui pleure avec nous, et peut-être qu'il le pleure plus que nous, ses pannes de la vie, ses difficultés de la vie, et qu'il nous suggère à nous, parents, de faire tout pour adoucir ces moments, et à tous ceux qui cherchent, de chercher des choses qui vont permettre d'éviter que d'autres enfants meurent, et de permettre aussi que les médecins trouvent ce qui va le plus soulager ces enfants, et voilà, et adoucir la vie.
Bénédicte Auriou, nous allons devoir nous quitter, mais avant, j'aurais aimé que vous nous lisiez un passage de ce que vous avez écrit, vous, dans Facebook, le 22 décembre 2016.
Voilà, donc c'est toujours un jour particulier, le jour de passage de Brice. On ne sait jamais ce qu'on va vivre ce jour-là, et il s'avère que des fois, j'arrive à écrire des choses, et voilà ce que j'écrivais. C'est l'appel du 22 décembre, pressant et vaste, qui s'annonce. Hier, sans goût et sans motivation, j'errais à l'intérieur de moi, ballotté, maltraité par ces pannes de la vie. Il est 3 heures du matin, et il y a 5 ans, j'appelais Yves à me rejoindre pour accompagner la vie de Brice dans ses derniers souffles. Et aujourd'hui, comme il y a 5 ans, je veille la vie de Brice, la vie suscitée et apparue, sur laquelle la mort n'a pas eu d'effet. Mon amour pour lui ne s'est pas arrêté il y a 5 ans. Je ne me suis pas abandonnée dans ce parcours. Je n'ai pas renoncé à aimer. Je veille la vie des miens dans cette recherche intérieure de comment les accompagner, accueillant que les aimer, c'est pour moi vivre, et qu'ainsi ma vie prend tout son sens. À cette heure, je suis capable d'entendre les manques des uns et des autres. Je ne me sens pas culpabilisée par mon impuissance devant cette situation, mais habitée par cette réalité et recherchant comment alléger cette situation, cherchant comment permettre la vie, comment faire attention à la vie qui veut passer. Dans ce même mouvement d'il y a 5 ans, de me mettre à l'école de l'espérance, alors que tant de signes criaient l'injustice et la faim. Brice, tu es très vivant en moi. En parlant de toi à travers Rassure mes copains, je prends soin de ce plus que tu as apporté à ma vie, te donnant la possibilité de te dire et adhérant à ce travail de redressement en moi, m'ouvrant à mes solidités. C'est doux d'éprouver cet amour en moi pour toi, comme un champ frais et printanier, riche de promesses. Je me sens portée et sens accessible la paix et la joie. Je sens vivant mon amour pour toi, et libre de choisir l'espérance pour ma vie, pour notre vie. C'est ici et maintenant l'espérance pour ma vie, dans cette réalité familiale qui est la mienne. Je la dois à ce chemin que je fais sur moi depuis 3 ans avec PRH. Je me sens juste, reconnaissante à la vie, sans rancune, aimante. Je consens à l'espérance et vous la partage bien simplement.
Merci Bernadette Auriou, merci pour ce témoignage. Bénédicte, pardon, mais pour ce témoignage de foi et d'amour, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de Rassure mes copains et que cet ouvrage est édité par Fidélité, voilà, je crois que c'est la collection Béthanie. Merci encore, au revoir.
Merci.